Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Igor Strauss.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. C'est une déclaration historique, une déclaration qui permet de briser un tabou de plus de 50 ans. Vendredi dernier, lors de son étape camerounaise, François Hollande a été le premier chef d'État français à reconnaître le passé trouble entre ces deux pays et la répression impitoyable menée par l'armée coloniale française contre l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, le parti historique des nationalistes camerounais. Une déclaration qui a réjoui et surpris à Yaoundé, puisque la visite du président français était centré sur des questions sécuritaires avec la lutte contre le groupe islamique Boko Haram. Alors, comment interprétez-vous cette déclaration de François Hollande? Que représente pour vous le devoir de mémoire? Côté camerounais, faut-il aller plus loin et demander des réparations à l'État français? Nous lancerons le débat dans une trentaine de minutes. Le standard est ouvert, donc appelez-nous au 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. On attend également vos messages sur les réseaux sociaux et par mail évidemment à appel@actu.rfi.fr. Mais d'abord, comme tous les jours, nous commençons avec vos questions aux journalistes de la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité du moment. Mais vous êtes déjà très nombreux au standard à souhaiter vous exprimer. Alors je vous redonne le numéro de téléphone 33 9 693 693 70. Et tout de suite, direction Bamako. Nous sommes en ligne avec Soumeila. Soumeila, bonjour.
Bonjour Igdo. Bonjour l'ensemble des auditeurs de Radio Dimon, RFI.
Merci Soumeila. Soumeila, on vous écoute. Quelle est votre question?
Ma question, en tant que Malien, après l'attaque qui a eu lieu dans la région de Ségasso la semaine dernière, quelle est la proposition de notre gouvernement envers cette région et les restes du territoire malien pour la sécurisation?
Alors, Soumeila, pour vous répondre, nous accueillons Serge Daniel, l'un de nos correspondants au Mali. Bonjour Serge Daniel.
Oui, bonjour.
Serge, quelques jours seulement après les deux attaques qui ont lieu au sud du Mali, tout près de la frontière ivoirienne, Soumeila le rappelait, eh bien, on peut s'interroger sur les propositions du gouvernement. Quelles sont-elles?
Alors, justement, à la frontière sud avec la Côte d'Ivoire, par exemple, il faut savoir que le Mali a dépêché des troupes, mais qui restent sur le territoire national pour des opérations de ratissage, comme l'a récemment expliqué devant les députés le ministre malien de la Sécurité. Alors, ces groupes, vous savez, ont récemment attaqué une localité malienne, celle de Fakola, située à la frontière, et un peu comme si Bamako et Abidjan voulaient prendre en tenaille ces mouvements armés, ces bandes armées, la Côte d'Ivoire, de son côté, a également dépêché sur place des troupes côté ivoirien. Alors, ce qui explique d'ailleurs peut-être l'accalmie de ces derniers jours. Donc, aux frontières sud du Mali, il y a un renforcement de la coopération avec les pays voisins. Aux mêmes frontières maliennes, des témoins ont également parlé de renforcement du dispositif de contrôle à l'entrée et à la sortie du Mali. Il faut également savoir qu'actuellement, il y a une réorganisation du dispositif sécuritaire au Mali. Secret défense, on ne donne pas officiellement de détails, dit-on, mais ici, on sait par exemple que le Mali renforce sa capacité d'intervention aérienne, donc acquisition d'appareils, d'après nos informations, et que dans certaines villes du sud, comme Bamako, la capitale, où il y a eu dans le passé un acte terroriste, des problèmes en tout cas, des gens, des islamistes à arrêter. On voit aujourd'hui, par exemple, de plus en plus dans les rues, dans les principales artères, une brigade spécialisée, armée, circuler à moto. C'est nouveau. Un mot encore pour parler cette fois-ci de sécurité, mais sur le fleuve, parce que le fleuve Niger traverse le Mali. En venant, par exemple, ou d'autres petits fleuves, ainsi, en venant, par exemple, de la Guinée ou de la Côte d'Ivoire voisine, on peut, par endroit, emprunter un fleuve ou des rivières. Ce sont là de véritables passoires et là encore, il y a un renforcement des mesures de sécurité.
Soumeila, êtes-vous rassuré par la réponse de Serge Daniel?
Tout à fait, je suis très mal rassuré, monsieur.
Bon, bien écoutez, merci en tout cas de nous avoir appelé et très bonne journée à vous à Bamako. On passe à Douala au Cameroun. Nous avions osé au téléphone, malheureusement la ligne vient de couper, je vais donc me faire son porte-parole. Osez, Serge Daniel, c'est une question qu'il vous pose également. Osez voudrait savoir quelle est la coalition djihadiste présente au sud du Mali, qui sont les alliés d'Ansar Dine. Voilà la question d'Osez. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Serge Daniel?
Alors, on peut lui dire que c'est une coalition qui est en fait une franchise du groupe islamiste en Sardine, dirigée par un homme qui s'appelle Yad Agali, lui-même affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Alors, dans cette coalition, qui a également attaqué d'ailleurs des localités du centre du Mali, on retrouve d'abord des combattants d'ACMI, quelques combattants dans Sardine, mais il y a également des combattants de la Dawa. La Dawa, c'est une secte fondamentaliste d'origine pakistanaise. Il y a également au sud des fidèles d'un prédicateur qui s'appelle Amadou Koufa. Il est de la région malienne de Mopti, c'est au centre. Il a quelques centaines de combattants. C'est un prêcheur redouté, radical. Très récemment, il s'est attaqué à la France. Il appelle à s'attaquer à la France. Et cette
il a demandé, est-ce qu'on éradique les blancs, hein. Il ne parlait pas de français, il parlait de blancs tout simplement, lui.
Il parlait de blanc, mais dans la traduction en Peul, le traducteur c'était un sociologue et il est très clair là-dessus. Quand il parle de blanc, le sociologue dit quand il parle de blanc, quand on parle de blanc dans notre langue Peul, on parle de français en fait parce qu'on a été colonisé par eux. Donc c'est essentiellement eux. Donc bref, cette coalition de groupes armés est pour l'application de la charia et la lutte armée. On trouve ces hommes au centre du Mali, mais également au sud, avec une particularité, c'est que par stratégie, ils s'installent souvent à des frontières. Par exemple, la frontière entre le Mali et la Mauritanie, ils tentent de faire d'une forêt qui se situe à cette frontière, la frontière du Ouagadou, leur base, et côté frontière ivoirienne, c'est-à-dire vers le sud, et une autre forêt, la forêt de Sama, c'est très boisé, et ils se replient dans cette forêt-là. À côté maintenant de ces groupes armés islamistes que je citais, il y a des bandes armées qui profitent de la situation. Il y a également, enfin, le mouvement pour la libération du Mali, qui est, disons-le, pour le moment très obscur, parce qu'on ne connaît pas exactement la réelle force de ce mouvement naissant, ce mouvement armé naissant sur le terrain.
Alors, Amadou Koufa, dont vous nous parliez il y a quelques secondes, est un homme introuvable actuellement au Mali. Est-ce que sa capture est une priorité pour le gouvernement malien?
Je pense, quand on discute avec les responsables de sécurité du Mali, il fait partie des trois têtes djihadistes qui sont les plus recherchées aujourd'hui. Cet homme est dangereux, je l'ai dit, et les forces de sécurité maliennes, en discutant avec les responsables, disent il n'y a aucun doute, si on le voit, on doit le neutraliser par tous les moyens parce que il est responsable. En tout cas, ses combattants ont participé à plusieurs attaques du sud, comme du centre. Mais Amadou Koufa, c'est le nom de son village, Amadou Bari, c'est son véritable nom, c'est un homme qui court toujours pour le moment.
Eh bien écoutez, merci infiniment Serge Daniel d'avoir répondu aux questions de nos deux auditeurs. Je rappelle que vous êtes évidemment l'un de nos correspondants au Mali. Très bonne journée à vous Serge à Bamako, merci d'avoir été parmi nous.
Au revoir.
Au revoir et à bientôt. Et on repasse au standard. Nous sommes maintenant avec Al-Farouk qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Al-Farouk.
Bonjour Igor. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Al-Farouk.
Allez-y,
continuez.
Il y a eu au sud du Mali la semaine dernière un attentat terroriste, ce qui constitue une réelle menace pour la Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont donc les dispositions prises par le gouvernement ivoirien pour sécuriser ses frontières?
Ça ressemble un petit peu à la question que nos auditeurs posaient sur le Mali. Mais effectivement, il est bon de se poser cette même question concernant la Côte d'Ivoire. Et pour vous répondre, nous allons accueillir Anna Sylvestre, qui est l'une de nos correspondantes en Côte d'Ivoire. Anna Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à Al-Farouk, Anna?
Bon, j'espère qu'il ne va pas être trop déçu parce que, à vrai dire, ici à Abidjan, il y a assez peu de choses qui filtrent sur en train de se passer au nord. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que juste après l'attaque de Fakola, comme l'évoquait Serge Daniel il y a un instant, des renforts militaires ivoiriens ont été envoyés très vite au nord du pays, tout au long de la frontière avec le Mali. Ça a été annoncé par le gouvernement et ça a été confirmé par des habitants de cette région de la Côte d'Ivoire. Ils ont témoigné, effectivement, des forces armées sont là et visibles en nombre. Parallèlement, l'ONUCI, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a également déployé des casques bleus dans la zone. Mais pour l'instant, donc, on ne sait pas grand-chose d'autre. Impossible, par exemple, de savoir quelles troupes ont été envoyées au nord. Impossible aussi de savoir combien d'hommes exactement sont arrivés en renfort. Tout sera fait pour éviter que les choses aillent trop loin. Tout sera fait pour éviter le pire, se contentent de déclarer les autorités ivoiriennes. Elles refusent, en fait, de communiquer, car, disent-elles, il ne faut pas affoler la population, Igor.
Et justement, depuis ces attaques, depuis les menaces dans le Sardine, le groupe terroriste a promis de frapper la Côte d'Ivoire. Et est-ce qu'il y a de l'inquiétude dans le pays, Yana ?
Oui, clairement, hein, de la part de certains experts, il y a de l'inquiétude. Cela fait longtemps, disent certaines voix, que la Côte d'Ivoire doit se préparer à d'éventuelles attaques, au moins depuis le début de l'opération militaire au Mali. L'hypothèse de cellules terroristes dormantes en Côte d'Ivoire est régulièrement soulevée, on entend régulièrement parler. Elle a toujours, cette hypothèse, été démentie par le gouvernement, mais le risque, selon plusieurs observateurs, c'est que d'anciens combattants ivoiriens puissent être recrutés par ces groupes djihadistes. Vous savez, des jeunes hommes qui ont manié les armes pendant la crise ivoirienne et qui, pour certains, désormais se sentent délaissés. Dans ces conditions, c'est sur le renseignement qu'il faut compter, c'est le renseignement qu'il faut accentuer, demandent certains députés comme Pierre Gao Oulata, c'est le président de la commission sécurité et défense de l'Assemblée, c'est aussi un ancien militaire, c'est important de le souligner. Et en effet, dans l'ombre, c'est services sont sans doute en train de travailler avec leurs homologues des pays voisins. Selon une bonne source, le ministre malien de la Défense a fait le déplacement à Abidjan il y a très peu de temps et en toute discrétion. Et puis, on sait que le sujet a été discuté entre le premier ministre ivoirien et son homologue burkinabé, Isaac Dida, c'était hier, puisque Isaac Dida est ici en visite.
Et quelle est la réaction des Ivoiriens ?
Eh bien, dans le nord du pays, d'après les gens que j'ai pu joindre, car nous n'avons pas encore pu nous rendre sur place, mais d'après les gens que nous avons eus au téléphone, on prend effectivement les menaces d'Anne Sardine au sérieux. Il y a une certaine angoisse. On est, par exemple, en pleine saison des pluies et beaucoup de personnes là-bas passent leur journée dans les champs. Ceux-là nous ont dit qu'ils faisaient particulièrement attention en ce moment, qu'ils prenaient des précautions, qu'ils évitaient d'être seuls, par exemple, tandis qu'en ville, certains jeunes nous ont dit qu'ils évitaient de se regrouper dans des lieux publics et que, surtout, le sujet était vraiment au cœur des discussions.
Alors, les députés ont adopté récemment à l'unanimité une loi antiterroriste. Qu'est-ce que cette loi peut changer, Anna ?
Oui, tout à fait. Hein. C'est dans ce contexte de menace que ce texte antiterroriste a été voté. C'était vendredi dernier. En fait, cette loi, elle prévoit d'une part des peines de prison, 10 à 20 ans de prison pour appartenance ou affiliation à un groupe terroriste. Et puis de l'autre, elle met toute une batterie de moyens à disposition des forces de l'ordre. Les perquisitions sont par exemple autorisées de jour comme de nuit. Les gardes à vue peuvent être prolongées de 2 fois 4 jours. Et puis, les écoutes téléphoniques, les interceptions de conversation, comme on dit, notamment, sont désormais possibles, officiellement possibles. Cette loi, elle fait donc craindre certaines dérives. Igor, c'est en tout cas ce que disent des représentants des associations des droits de l'homme ici. Ils redoutent en fait que ce texte puisse être utilisé également à des fins politiques contre l'opposition. Par exemple, vous savez que nous sommes à 4 mois seulement de l'élection présidentielle ici, mais dans l'Assemblée, les députés, eux, assurent qu'il n'y aura pas de confusion, pas de dérive.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Anna Sylvestre, d'avoir répondu à la question de notre auditeur. Je rappelle que vous êtes l'une des correspondantes de RFI en Côte d'Ivoire. Très bonne journée à vous à Abidjan. À bientôt, Anna. Anna nous a quitté. 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Voilà pour le numéro de téléphone si vous souhaitez poser des questions à l'ensemble des journalistes de la rédaction. Et nous allons accueillir maintenant Bernard qui nous appelle de Brazzaville. Bonjour Bernard.
Bonjour Hugo Faust et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Vous avez très bien dit mon nom Bernard, je vous en remercie. Quelle est votre question Bernard?
Alors, la dernière édition de la Copa América vient de se terminer par la victoire du Chili. J'ai en réalité trois questions à vous poser à ce sujet. La première, après avoir organisé cette compétition plusieurs fois sans la gagner, le Chili est enfin monté au podium de la Copa América. Alors la question que je voudrais savoir, d'où est venue la force de cette équipe cette fois-ci pour emporter la Copa América?
Eh ben, allez-y, posez toutes vos questions d'un coup, on y répondra d'une façon, d'une traite.
D'accord. Et la deuxième, l'Argentine vient de perdre cette Copa América. Est-ce que cette contre-performance de l'Argentine remet en question sa place sur le classement FIFA, sur lequel il est d'ailleurs en tête? Et enfin, Lionel Messi, capitaine de l'équipe d'Argentine, meilleur joueur au Mondial 2014 et vainqueur de la Ligue des Champions 2015, n'a pas pu encore une fois donner la coupe à son pays. Comment expliquer les mauvaises performances de ce joueur avec l'équipe nationale Igor?
Eh bien écoutez, il est à mes côtés, c'est Eric Mamrut du service des sports de RFI. Bonjour Eric.
Bonjour Igor, bonjour tout le monde.
Alors qu'est-ce que l'on peut répondre à Bernard? C'est vrai qu'après 99 années d'attente et 4 finales perdues, le Chili a enfin inscrit son nom au palmarès. Quelles sont ses forces Eric?
Sa grande force c'est le collectif, puisqu'il n'y a pas véritablement de grands joueurs dans toutes les lignes dans cette formation appelée la Roja. Évidemment il y a Arturo Vidal, Alexis Sanchez et Claudio Bravo, mais le sélectionneur privilégie le collectif pour en faire une équipe solide, soudée, percutante avec un jeu offensif. L'équipe joue haut, cherche la possession de balle, il y a beaucoup de solidarité, c'est une équipe qui prend beaucoup de risques offensifs et ça marche. Alors en fait c'est Marcelo Bielsa qui a mis en place ce jeu-là lorsqu'il était sélectionneur du Chili entre 2007 et 2011, et celui qui a pris sa suite, c'est un Argentin également, c'est un disciple de Marcelo Bielsa, il s'agit de Jorge Sampaoli. Donc il y a la patte Marcelo Bielsa derrière tout ça. D'ailleurs Bielsa
Par les supporters,
on lui a rendu hommage par les supporters, par les médias, par Sampaoli lui-même. Donc c'est une victoire collective à tout point de vue, sur le terrain et au niveau du bon touche aussi, si on pourrait le dire ainsi. Alors, faut dire, le Chili ne vient pas de nulle part non plus. Ils ont fait 8e de finale à la Coupe du Monde. Ils avaient battu l'Espagne en match de poule, tenante du titre à l'époque. Et ils avaient buté seulement contre le Brésil au tir au but. Bon, c'était pas le grand Brésil quand même, mais on avait le talent de cette équipe chilienne. La dernière force de cette équipe, c'est de jouer à domicile. Évidemment, ça joue quand vous avez tout un peuple.
Un public fantastique.
En plus, vous connaissez le public sud-américain, peuple passionné, s'il en est, dans le stade de Santiago, 45 000 personnes qui chantent, qui agitent des drapeaux, cela vous pousse une équipe. Et la décision s'est faite à peu de choses, hein. Une victoire au tir au but, on l'a dit, face à l'Argentine. Seulement, et au moment où ça devient décisif, bah là le public joue le rôle de 12e homme à plein.
Et vous pensez que ça a joué, ça a forcément joué. Rappelons que le Chili a également éliminé l'Uruguay qui était le tenant du titre. Alors, une autre question de Bernard, c'est sur la performance de Lionel Messi. Est-ce qu'il a été un petit peu en deçà de ses performances habituelles?
Oui et non. Bon, avec l'Argentine quand même, Messi n'est pas si mauvais que ça. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 46 buts marqués en 103 sélections. Maradona avait marqué seulement 34 buts. Alors c'est vrai qu'il a rien gagné d'important avec l'Argentine, si ce n'est les Jeux Olympiques en 2008. En demi-finale, il a été très bon, victoire 6-1 face au Paraguay. Mais en finale, c'est vrai qu'il a été muselé. Surtout, il a montré un visage un petit peu décontenancé, vite découragé, comme en finale de la Coupe du Monde l'an dernier. C'est vrai que c'est dans ces moments-là, qu'on se dit que c'est peut-être pas encore un vrai leader sur le terrain. Il ne tire pas son équipe vers le haut comme Maradona pouvait le faire à l'époque. Et c'est à mon avis ce qui fait encore la différence entre El Pibe
et Maradona. Très rapidement, voilà. Il nous reste 20 secondes. Le classement FIFA, l'Argentine est actuellement 3e, mais elle va remonter, Eric.
Elle va passer devant. Elle va devenir première au prochain classement publié le 9 juillet. Et forcément, l'Allemagne et la Belgique qui étaient première et deuxième ne jouent pas en ce moment. L'Argentine a été en finale et elle remonte et elle va prendre la première place.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Eric Mamrut, d'avoir répondu aux questions de Bernard. Restez avec nous. On se retrouve dans un petit peu plus de 10 minutes, juste après le journal. À tout de suite.